Je vais essayer d'abord de situer ce dont je vais vous parler dans l'objet du colloque qui est celui-ci. Je reviens vous parler aujourd'hui des pratiques de recherche dans la science, la technologie, ce qui a prévu de faire un rapport direct avec les notions de vie durable, de développement durable. Et donc je vais pour cette raison tenir un exposé qui est plutôt de l'ordre du programmatique, donc qui ne va pas être situé empiriquement, qui ne va pas être le fruit d'un travail de terrain approfondi, mais qui va plutôt porter sur des axes généraux. Voilà. Alors je vais vous parler de nanotechnologie et d'innovation responsable. Alors je vais un peu vous définir ce que c'est, mais je vais vous faire l'hypothèse qu'il y a au cœur de toutes ces histoires-là, il y a une tension que se propose précisément de résoudre l'innovation responsable. Et je vais essayer de vous montrer finalement que cette association d'idées, donc l'innovation responsable, ne va pas forcément de soi et qu'elle mérite qu'on s'y attarde un petit peu, et qu'elle est féconde en dispositifs qui sont des manières de gouvernementalisation, et ce sera là-dessus que je conclurai. Alors les nanotechnologies, ce sont ces technologies de l'infiniment petit qui se caractérisent par le fait qu'elles sont une technologie plateforme. Donc vous pouvez les utiliser dans toute une série de domaines industriels, dans toute une série de secteurs, et vous pouvez, avec les nanotechnologies, conduire à une grande diversité d'applications différentes. C'est un objet qui se définit par le soutien très très fort dont il bénéficie depuis les origines des pouvoirs et des autorités publiques qui dévoluent des financements absolument considérables. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on parle en termes de milliards d'euros ou de milliards de dollars qui sont investis par les pouvoirs publics pour développer, promouvoir la recherche, le développement en matière de nanotechnologie. Alors, c'est un projet politique de recherche et développement qui se greffe sur un traumatisme pour les promoteurs, donc les autorités publiques et les acteurs de l'innovation, un traumatisme qui a été donc cet événement qu'a décrit Isabelle Stengers du refus des biotechnologies et en particulier des organismes génétiquement modifiés par une certaine tranche de l'opinion publique, qui a donné lieu à ce qu'un auteur a appelé, sur cette même formule que j'apprécie particulièrement, la nanophobie-phobie. Donc la phobie de la part des promoteurs des nanotechnologies, de la peur ou de la crainte que pourrait ressortir le public et des blocages qui pourraient s'en suivre. La crainte, si vous voulez, c'est un moratoire sur les nanotechnologies qui empêcherait l'avancement de la recherche, du développement et puis des conséquences pendant un temps en termes de croissance, en termes de création d'emplois, etc. Vous avez entre ce volontarisme très fort d'une part et cette espèce de phobie, vous avez une tension très forte qui s'est traduite, qui en fait est consubstantielle aux nanotechnologies en tant qu'objet complexe et multiple. C'est une tension temporelle, donc les nanotechnologies, on vous promet la révolution pour demain, mais avec des problèmes dans le présent, qu'est-ce qu'il faut gérer. On vous dit qu'on va soutenir la recherche et le développement, mais qu'il va s'agir de maîtriser les externalités négatives, donc les conséquences sur la société, les conséquences éthiques, les conséquences légales. Donc vous avez une tension politique, et puis vous avez cette tension rhétorique toujours, qui est de dire que les nanotechnologies, elles sont révolutionnaires parce que vous avez des propriétés inédites, des propriétés nouvelles. Et puis qui va en termes politiques se traduire dans un discours de maîtrise en disant oui d'accord c'est inédit, c'est nouveau, mais on en a la maîtrise. Voilà. Alors j'en viens à cette idée d'innovation responsable qui quelque part concentre et canalise ces tensions dont je viens de vous parler. Alors c'est ici qu'on peut peut-être le plus rapprocher donc, l'idée d'innovation responsable avec ce concept de développement durable qui est au cœur de nos réflexions. En fait, l'innovation responsable participe de cette même mouvance qui consiste à associer à des phénomènes déterminés un attribut, donc, c'est-à-dire un principe d'action appelé à renouveler le cadre des pratiques. Je m'explique. On assiste à une prolifération conceptuelle considérable et à une production d'expressions qui n'ont pas forcément de soi. Le développement durable, le commerce équitable, la croissance verte, le capitalisme moralisé. Vous comprenez bien l'idée, c'est d'associer un phénomène avec un attribut qui est censé donc redéfinir la manière dont ce phénomène va être pris en compte et va être géré. Alors ces associations sont discutables, elles ne vont pas de soi. Donc, Meust, en parlant de ces expressions-là, fait référence à des oxymores, c'est-à-dire l'association de termes qui, à la base, sont antinomiques. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas forcément une mauvaise intuition pour ce qui concerne l'innovation responsable. Donc, l'innovation, étymologiquement, ça veut dire renouveler, donc produire de nouveau. Ça a deux grands aspects, c'est l'action d'innover, donc l'action de produire de nouveau, et puis les résultats pratiques, les objets techniques qui vont en découler. Donc ce sont typiquement les nanotechnologies, c'est l'action d'innovation, en tout cas supposée. Et puis responsable, ça, étymologiquement, c'est qui répond de ses actes, qui est réfléchi, qui est raisonnable. Alors, la responsabilité, on comprend intuitivement que c'est une notion très moderne, en fait, qui est attachée à l'idée d'un sujet moderne, libre de ses actions, rationnel, autonome. Et je voudrais bien vous montrer que dans le cas des nanotechnologies, eh bien, on se trouve ici confronté à une contradiction logique. Parce que la notion d'innovation qui va prédominer dans le cadre des nanotechnologies, là, c'est une notion d'innovation qui est systémique. On va insister sur les interactions multiples et complexes entre différents types d'acteurs, donc aussi bien des laboratoires que des universités, que des centres de recherche et développement, que le gouvernement qui a plutôt un rôle de coordination. C'est typiquement ce que vous avez trouvé dans des modèles comme par exemple celui de la triple hélice, hein, l'idée que gouvernement, académie, industrie font avancer le moteur technologique de concert à trois voies. Donc une notion assez systémique qui est communément admise, que vous avez trouvé dans le rapport de l'OCDE, dans les documents de la Commission européenne, et qui se confond donc avec cette idée de responsabilité, dont je vais essayer de vous montrer brièvement comment elle se traduit dans le cadre des nanotechnologies. Donc dans le cadre des nanotechnologies, la responsabilité, elle est déclinée en fait en suivant une catégorisation qui va vous distinguer à main gauche les enjeux de risque sur l'environnement, la santé publique et la sécurité. On va appeler ça les enjeux HES, sur l'acronyme anglais. Et puis vous allez avoir à ma main droite les enjeux éthiques, légaux et sociaux. On appelle les enjeux ELSI ou ELSA, ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous situez. Alors, il y a là, dans cette catégorisation qui finalement, in fine, traduit ce qu'on entend par responsabilité, il y a là une sorte de division du travail. Le droit aux juristes, l'éthique aux éthiciens, la société aux sociologues et les risques aux toxicologues. Ce qui, vous comprendrez, n'est pas forcément compatible avec la vision d'une innovation systémique dans laquelle ce sont les interactions entre les acteurs, nonobstant leur spécialisation respective, qui va produire l'innovation. Alors, simplement, l'innovation responsable se traduit par toute une série de manières sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Je vais peut-être essayer de vous donner une tentative de définition qui n'est pas encore stabilisée, mais qui vient de certains membres de la commission qui y travaille pour le moment, qui dit que finalement, l'innovation responsable, c'est une manière de rendre les acteurs sociaux et les acteurs de l'innovation mutuellement répondants des actions l'un de l'autre. Donc, il y a là une manière d'établir un dialogue en termes d'acceptabilité sociale, en termes de durabilité et en termes de désirabilité sociale. Alors, bon, ça c'est une définition qui est un peu creuse, qui ne nous dit pas grand-chose sur ce qu'on veut mettre en œuvre. Moi, je vais plutôt préférer vous parler du programme qu'essaye de mettre en œuvre l'innovation responsable, qui consiste en fait à maximiser les bénéfices qu'on apporte à l'innovation, donc des technologies qu'on peut mettre sur le marché, de la croissance économique et des emplois, ce sont les bénéfices directs à court terme, et on essaie de faire ça en minimisant les externalités négatives, c'est-à-dire les risques, les conséquences imprévisibles, etc. Donc vous retrouvez là, entre eux, tout le programme des dispositifs foucaldiens, des dispositifs de sécurité qui sont dans cette logique de maximiser les bénéfices, minimiser les risques. Et donc je reviens à cette figure de la contradiction de l'oxymore qui est tout le temps présente, qui traverse cet exposé. Donc, je peux conclure sur l'innovation responsable en disant, mais au fond, on ne comprend jamais, ça c'est un artifice que je vais vous proposer de suivre avec moi, on ne comprend jamais aussi bien une expression qu'en essayant d'adopter son contraire. Donc, innovation responsable, on pourrait prendre des exemples. Je vais prendre un exemple fortuit. Si on dit, le changement c'est maintenant, vous prenez l'antithèse, ça donne, le statu quo c'est demain. Bon, prenons l'innovation responsable. Quelle pourrait être l'antinomie de cette expression? On pourrait parler de stagnation irresponsable. On pourrait parler de tradition et s'envoler. Vous voyez qu'on, en fait, quand on retourne le concept sur sa tête, on se rend compte en réalité qu'il est dépourvu de sens. C'est un concept, c'est une production conceptuelle qui s'avère s'effondrer finalement à l'assaut de ses propres contradictions. Et alors je conclurai simplement en mentionnant un outil particulier qui fait partie de ce cadre général de l'innovation responsable, qui est un code de conduite, un code de bonne conduite, je vais vous citer la titre exacte, un code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologie. Et finalement, ce code de bonne conduite, il va contenir une disposition qui s'adresse très spécifiquement aux chercheurs, aux praticiens de la recherche et du développement, et qui leur dit « Les chercheurs et les organismes de recherche demeurent responsables des incidences sur la société, l'environnement et la santé humaine que leurs recherches en nanosciences et nanotechnologie peuvent entraîner pour les générations actuelles et futures. » Donc, vous retrouvez dans cette disposition particulière de ce code de conduite qui prend le statut d'une recommandation de la Commission européenne, vous retrouvez toutes les tensions dont je vous parle au début. Le rapport problématique du futur et du présent, la reconnaissance d'incidences endogènes au développement des nanotechnologies, et puis l'idée de dire, au fond, il va falloir établir un dialogue, puisque le code de conduite entend avoir le statut d'un instrument de dialogue entre les différentes parties prenantes, etc. Alors, un petit mot sur la responsabilité, et puis j'en finirai là-dessus. Eh bien, nous avons un magnifique article de Émilie H. De Sciences Po, qui nous dit finalement la responsabilité, c'est une technique de gouvernementalité, au sens où c'est un transfert de l'action publique à destination des individus. Et je crois que c'est le sens de ce code de conduite qui, à un moment donné, fait reposer la responsabilité du développement scientifique sur le dos des scientifiques, des praticiens à la recherche et du développement, nonobstant les contraintes systémiques et les interactions multiples auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc ce transfert s'opère d'abord en rendant un comportement indésirable, donc en l'occurrence les pratiques de recherche habituelles, le business as usual, et en valorisant un autre type de comportement qui lui précisément pour le coup serait responsable. Donc c'est une manière d'influencer le comportement des scientifiques et en fait de les soumettre à ce qu'on peut appeler une injonction paradoxale. Donc on leur dit, d'un côté, innover, soyez créatifs, amenez un renouvellement, c'est le sens de la démarche de l'innovation, mais faites-le de manière responsable. Donc en bridant cette créativité et en la soumettant à un impératif de responsabilité qui se décline en enjeux de risque sur l'environnement, de risque sur la santé, de risque sur la sécurité, d'enjeux éthiques, d'enjeux sociétaux et d'enjeux légaux. Voilà. Et puis après, c'est tirer votre plan. Donc il y a là, je pense, une manière de gouvernementalisation qui nous renvoie en fait à l'attention fondatrice que j'ai essayé de vous montrer qui a lieu dans le développement des nanotechnologies et qui se manifeste également dans la production conceptuelle à laquelle se livrent les promoteurs de l'innovation responsable. Merci.